8h34 sur RFJ. Il est temps de nous rendre aux questions orales au Parlement aux côtés d'Émilie Momentaler. Bonjour.
Oui, bonjour Laurent. Nous sommes en direct de l'hôtel du Parlement. 14 questions orales sont annoncées aujourd'hui. La première avec l'élu UDC de Kourou, Didier Spies.
Et nous n'avons pas de connaissance d'un suivi spécifique. D'où ma question au gouvernement. Est-il possible qu'un enfant d'environ 15 ans et qui n'est pas ou plus scolarisé se retrouve tout seul dans un appartement financé par une institution étatique? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, concernant la situation que vous mentionnez, je peux juste vous indiquer à ce stade que si vous faites référence à une situation connue de la PEA, parce que voilà, c'est pas hyper précis, les faits ne sont toutefois pas tels que vous les avez exposés dans le développement de votre question orale. La situation est bien plus complexe que vous l'avez expliqué, notamment sur le fait qu'elle ne vit pas seule et qu'elle n'est pas déscolarisée. Vous comprendrez néanmoins, j'imagine aisément, qu'il ne m'est pas possible de préciser à cette tribune, pour des questions de secret de fonction et de protection des données, plus de détails par rapport à cette situation. Ainsi, je peux me limiter à vous dire que le lieu de vie de l'enfant n'a pas été déterminé par la PEA et que pour un enfant de 15 ans, ce sont en principe les parents qui doivent lui fournir un toit et non la collectivité. Je dois toutefois vous dire ici qu'une telle question posée à une tribune du Parlement jurassien n'est pas très heureux. J'ai le sentiment qu'ici, on pose des questions qui concernent et qui traversent la société jurassienne et qu'au cas présent, j'ai un peu l'impression d'une question choc digne d'un titre qu'on découvre le matin en prenant le train très tôt. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire à ce stade.
Merci Madame la Ministre. Votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Didier Spies est partiellement satisfait. Pour la deuxième question orale, j'appelle à la tribune Madame la députée Florence Beuge.
Florence Beuche, députée PDC de Boncourt, qui monte à la tribune à présent pour la deuxième question orale.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, pour rappel, les inondations dévastatrices d'août 2007 ont marqué un tournant pour la gestion des dangers naturels dans le canton du Jura. Les autorités cantonales et communales ont alors planifié les différentes mesures nécessaires à la prévention des crues selon leurs compétences respectives. Une stratégie cantonale de surveillance, d'alerte et d'intervention en cas de crue exceptionnelle a été adoptée en 2015, fondée sur une approche intégrée de la gestion des risques et une bonne répartition des tâches entre autorités cantonales et communales. La nouvelle loi sur la gestion des eaux du 28 octobre 2015 reflète cette stratégie. Or, les 8 et 9 août 2007, il est tombé 108 mm de pluie à la station météo suisse de Mervelier, provoquant une crue de la Scheulte mesurée à 84 mètres cubes par seconde à la station fédérale de Vic. Les 12 et 13 juin 2018, cette année, il est tombé 94 mm de pluie à la Mervelier, provoquant une crue de la Scheulte mesurée à 86 mètres cubes par seconde à Vic. Voici ma question. En quoi la stratégie cantonale de surveillance, d'alerte et d'intervention en cas de crue exceptionnelle a permis une meilleure gestion de la crue exceptionnelle de juin 2018 par rapport à celle d'août 2007? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre David Herret.
David Herret, ministre.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, effectivement, votre question est pertinente, Madame la députée. En quoi est-ce que les mesures prises depuis lors ont amélioré les choses? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la cellule crue et danger météo a pu être activée dès 1h15 du matin, durant cette nuit du 12 au 13 juin. Et ceci donc est déjà une réalité qui démontre la rapidité et l'efficacité de cette organisation. À 2h du matin, un premier rapport a été envoyé, notamment aux 6 de toutes les communes, aux groupes d'intervention au niveau des pompiers, qui ont pu relayer l'alerte, qui ont pu donc travailler dans le terrain. Et ceci a permis à certains endroits d'être vraiment efficace est de prendre des mesures de prévention de ces dommages liés à la montée des eaux. Par contre, il y a encore des potentiels d'amélioration et toutes les communes n'ont pas encore mis en place le plan d'alarme et d'intervention, ce qu'on appelle le PAI. Donc effectivement, ceci explique que peut-être certains citoyens n'ont pas été alertés durant la nuit du danger qui menaçait leurs habitations. Et c'est donc une réalité, c'est un potentiel d'amélioration qui doit maintenant être mis en place. Mais à l'issue de ces événements que nous venons de vivre, bien évidemment que nous allons avoir une analyse de ce qui s'est passé bien, moins bien, et que des mesures seront demandées là où des potentiels d'amélioration existent. Nous considérons que ces événements, c'est quelque part aussi une piqûre de rappel pour les choses qui doivent être mises en place, et notamment également des travaux d'aménagement qui sont en cours à Delémont, qui sont en cours à Kourou, des réflexions sont en cours à Soyères, et peut-être qu'ailleurs, des besoins d'aménagement au niveau des rivières sont nécessaires, ne sont pas engagés, et ces communes-là seront donc invitées à prendre en main ce problème pour encore améliorer une éventuelle future crue qui arrivera tôt ou tard, nous le savons.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Florence Beuche est satisfaite. Pour la troisième question orale, je donne la parole à Monsieur le député Pierre-André Comte.
Pierre-André Comte, député PS de Velleray.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les Ministres, le 29 novembre 2016, dans son rapport à l'intention du Parlement concernant le message adressé au corps électoral de Moutier avant le scrutin du 18 juin 17, le gouvernement souligne ce qui suit, je le cite, « Si la commune de Moutier décide de rejoindre le canton du Jura, le gouvernement jurassien engagera avec les autorités concernées, d'une part, la procédure de modification territoriale et de partage des biens entre les deux cantons et, d'autre part, les travaux relatifs à l'accueil de la commune dans le canton du Jura. Le calendrier est celui d'une entrée en vigueur de la modification territoriale le 1er janvier 2021, au début de la prochaine législature cantonale. Cet engagement ne pourra vraisemblablement pas être tenu. Il s'avère que, en effet, que la préfète du Jura Sud rendra sa décision sur les recours au plus tard en octobre 2018, ce qui signifie que la procédure aura pris une année de retard sur le programme initialement prévu. Par voie de conséquence, c'est bien la date du 1er janvier 2022 et nulle autre qui devrait marquer l'accession des Prévotois au statut de citoyen jurassien. On entend cependant ici et là des rumeurs, sans doute distillées par les autorités bernoises et malheureusement reprises dans le Jura, notamment par la presse, selon lesquelles cette échéance devrait être repoussée à 2023, voire 2024. Si en raison de la séparation des pouvoirs, les autorités politiques sont impuissantes à accélérer les procédures juridiques, elles doivent empêcher les atermoiements sur le plan politique. Il serait ainsi inadmissible que le canton de Berne se prête à des manœuvres dilatoires durant les travaux préparatoires du concordat intercantonal. La passivité du Conseil fédéral serait tout aussi inacceptable dans le contexte de négociations entre deux cantons placés sous l'arbitrage confédéral, d'où ma question. Le gouvernement est-il disposé à tout mettre en œuvre à l'interne, au niveau bilatéral et au sein de la commission tripartite, afin de faire respecter les engagements qu'il a pris à l'égard des Prévotois pour un transfert de Moutier dans les délais les plus brefs?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Charles Juillard.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement jurassien ne manque aucune occasion de taper sur le clou et de rappeler son impatience par rapport au traitement de ce dossier. Vous l'avez rappelé, il y a une forme de séparation des pouvoirs qui nous empêche d'intervenir directement auprès de la préfète dans ce cadre-là, qui agit selon son rythme, selon sa procédure. Souvenons-nous que malheureusement, la préfète du Jura Sud est encore bernoise. Cela dit, donc, nous avons à chaque occasion rappelé à nos collègues du Conseil exécutif bernois que nous sommes impatients de pouvoir discuter avec eux du transfert de Moutier, que nous attendons des échéances les plus rapprochées possibles pour aller au fond des choses et enfin concrétiser le transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura. J'aimerais profiter de la tribune pour rappeler aux Prévotoises et aux Prévotois que les autorités jurassiennes sont confiantes, qu'elles sont toujours prêtes à les accueillir à bras ouverts dans la République et canton du Jura. La présence nombreuse de citoyens de la République et canton du Jura samedi dernier à Moutier en est la plus belle illustration et je crois que de ce côté-là, nous pouvons être confiants. Nous avons bientôt une séance de la commission tripartite sous l'égide de la Confédération. Nous allons une nouvelle fois rappeler cette impatience, mais cela dit, nous n'avons pas d'autres moyens à ce stade pour faire davantage, mais nous insistons vraiment, vraiment chaque fois, y compris avec nos parlementaires fédéraux, pour que la Confédération ne se désintéresse pas de ce dossier.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Pierre-André Comte est satisfait. Pour la quatrième question orale, j'invite à la tribune Madame la députée Françoise Chéniat.
Françoise Chéniat, députée PDC du Noirmont, qui monte à la tribune pour la quatrième question orale.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, alors qu'on pensait le problème de la décharge de Bonfol réglé, le rapport d'un géographe balois nous apprend que 750 tonnes de déchets peu contaminés auraient été utilisées pour la construction de chemins sur le territoire de cette commune. Le gouvernement peut-il nous dire ce qu'il pense de ce rapport et s'il estime que la situation nécessite la réouverture du dossier en intervenant auprès de la chimie baloise pour poursuivre l'assainissement si la situation l'exige? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre David Herreux.
Voilà, Madame la députée, je peux vous répondre directement que le dossier n'a pas besoin d'être réouvert, il est déjà ouvert. Par contre, ce que je peux aussi vous dire, c'est que l'Office de l'Environnement prend très au sérieux les éléments qui ont été mis en lumière par Monsieur Forter. Monsieur Forter, d'ailleurs, qu'on remercie d'avoir fait ce travail dans les archives et d'avoir trouvé ces informations. Peut-être pour pondérer un petit peu les choses, on parle dans ces éléments historiques de 750 tonnes peu polluées et on regarde des 120 000 tonnes fortement polluées qui ont été assainies dans le site principal. Il y a donc là une proportion qui est différente. Donc pour nous, ce cas est bien évidemment traité avec sérieux, mais ce n'est pas un cas d'urgence puisque un réseau de surveillance qui a été mis en place dans toute la zone autour de la décharge de Bonfol, y compris donc autour de ces potentiels chemins qui seraient éventuellement composés de matériaux contaminés, eh bien ce réseau de surveillance n'a jamais démontré d'indices qui montreraient qu'une pollution viendrait d'ailleurs que du site principal de la décharge. Donc a priori, les risques sont faibles, voire nuls. Par contre, les démarches ont été engagées par l'Office de l'Environnement. Les investigations techniques, en fonction des résultats, seront initiées ou pas. Et ce dossier donc est suivi avec le sérieux que l'on connaît habituellement à l'Office de l'Environnement, c'est-à-dire un sérieux et un travail sans faille.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Françoise Chéniat est satisfaite. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune Monsieur le député Stéphane Thoria.
Stéphane Thoria, député PDC de Porrentruy.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les Ministres, chers collègues, à l'instar de la population jurassienne, le groupe PDC-JDC a pris connaissance de l'ampleur de la fraude réalisée par Carpostal avec un montant détourné de plus de 90 millions de francs sur la période 2007 à 2015. En ce qui concerne notre canton, et plus spécifiquement la région de Dlémont, il semblerait que le préjudice financier se porte à hauteur de 2 millions de francs. Dès lors, ma question est la suivante. Le gouvernement peut-il nous confirmer que l'ordre de grandeur du montant concernant le canton du Jura est exact et nous donner des précisions sur les entités touchées, à savoir canton, commune, agglomération de Dlémont ou autre? Par avance, je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herreux.
Alors, monsieur le député, effectivement, ce dossier Carpostal ou ce scandale Carpostal n'est pas encore terminé, puisque certains rapports qui sont toujours intermédiaires ont été évidemment reçus par le canton ont été également diffusés par les médias, en tout cas en partie. Et je corrigerai peut-être juste un montant que vous avez indiqué. Effectivement, les dernières informations qui sont toujours provisoires mentionnent un montant total de 90 millions, mais pour la période 2011-2015. À cela s'ajoute, pour la période 2007-2010, un montant estimé à 18 millions. Donc là, on parle global au niveau de Confédération et Canton. Et ensuite, il y a encore les années 2016-2017 qui sont en cours d'investigation au travers d'un nouveau modèle comptable où on estime, mais c'est de nouveau une estimation à 30 millions. Donc ça nous amène déjà à un total de 140 à 150 millions. Et pour cette période 2011-2015, effectivement, dans le dernier rapport que nous avons reçu, il est fait mention pour ce qui est appelé la région de Léman, un montant de 2 millions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la région de Léman comprend aussi des lignes de bus dans les cantons de Berne et de Neuchâtel. Donc la conséquence pour le canton du Jura, strictement, ça sera forcément inférieur à 2 millions. Et sur ce montant inférieur, il y a une subvention de la Confédération de 75%. Ça veut dire que sur le montant remboursé, admettons que ce soit 2 millions, mais ça sera moins, on peut imaginer qu'il y aura 1,5 million remboursé à la Confédération, 500 000 francs au canton du Jura. Donc là, je parle d'un maximum. Et puis ensuite, sur ce montant de 500 000 francs, eh bien, les communes ont aussi contribué au financement des lignes de bus. Donc nous devrons également voir avec quelle clé de répartition nous rembourserons les communes jurassiennes. Il y a également des lignes purement communales, comme à Delémont, où là, le montant sera redonné à la commune de Delémont. Donc, à la louche, comme je pourrais le dire, c'est entre peut-être 300 et 400 000 francs le montant pour les collectivités publiques jurassiennes, mais tout ceci à confirmer.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Stéphane Toria est satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune monsieur le député Raoul Yagui.
Raoul Yagui, député indépendant de Basse-Cour.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les Ministres, ma question concerne les horaires scolaires, plus précisément ceux qui sont transmis aux parents pour les degrés 1, 2, 3 et 4, puisque ce sont les degrés de classe où les élèves ont des après-midi, parfois des matins de congé. Ces horaires sont préparés par les écoles, à ce que je sais, ils sont transmis au service de l'enseignement avec une date limite au 31 mai, m'a-t-on dit, puis ils reviennent dans les écoles, puis ensuite seulement sont distribués aux parents qui doivent, eux, dans certains cas, organiser leur vie professionnelle et familiale avec des jours de garde en crèche éventuellement, ou ce genre de choses. La question est de savoir s'il est possible d'améliorer le délai dans lequel reçoivent ces horaires les parents, notamment d'ailleurs pour les degrés 1 et 2. Je rappelle pour les vieux députés et les vieux ministres que 1 et 2, c'est ce qu'était l'école enfantine avant. Ces degrés-là n'ont pas de redoublement. Ça devrait être plus simple, en tout cas pour ces deux degrés. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Martial Courtais, ministre de la Formation.
Oui, merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Il est vrai donc que pour la responsabilité de la préparation des horaires et toute cette question de communication des horaires des élèves, nous sommes du ressort des directions d'école. Directions d'école qui d'ailleurs... Pour qui d'ailleurs, c'est souvent un véritable casse-tête selon la grandeur de l'école de faire ses horaires chaque année, il faut quand même le rappeler. Ceci dit, il est effectivement important que cette communication se fasse dans de bonnes conditions et surtout dans des délais raisonnables pour que tout le monde puisse s'organiser. Vous parlez effectivement des parents, mais également bien sûr de l'organisation par rapport aux crèches et aux UAPE. Dans ce contexte, nous rappellerons donc aux écoles l'importance d'une bonne communication et nous leur demanderons de tout mettre en œuvre pour que les horaires soient communiqués au plus tard à la fin du mois de mai. Dans le cas où il ne serait pas possible, et on pense notamment à l'école primaire de Delémont, dans ce cas où il ne serait pas possible forcément de communiquer un horaire détaillé à fin mai, on demandera à tout le moins que cette mesure soit prise pour qu'ils puissent donner les demi-journées qui doivent être occupées. Je peux encore préciser, pour terminer ma réponse, que cette thématique, on l'a vu ces derniers jours circuler sur les réseaux sociaux. Ça nous a donc permis d'être informés, donc d'informer le chef de service de l'enseignement, et celui-ci a contacté les grands cercles scolaires, hein, pour qui, effectivement, l'organisation est souvent assez complexe. Et je peux vous donner, monsieur le député, comme réponse aujourd'hui, que Porrentruy, Haute-Saône et Delémont ont été contactés et ont déjà donné leur accord pour l'année prochaine, 2019, pour que le délai de fin mai soit respecté. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député. Monsieur le député Raoul Yagui est satisfait. Pour la septième question orale, j'invite à la tribune monsieur le député Frédéric Lovy.
Frédéric Lovy, député PCSI de Bouéquin.
Madame la présidente, madame et messieurs les ministres, chers collègues, dernièrement, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage a préavisé négativement le projet de passerelle au-dessus des gorges du Pichou. Cette attraction, cette curiosité novatrice, même si elle se trouve sur territoire bernois, a un caractère unique et nul doute qu'elle sera un atout supplémentaire au développement économique et touristique de notre région. De plus, les initiateurs du projet ont inclus dans ce concept une intégration d'éléments didactiques concernant la faune et la flore de la région ou encore le respect d'un site protégé, ce qui va dans le sens d'une sensibilisation à notre environnement. Au vu de ce qui précède, le gouvernement peut-il nous dire s'il a l'intention de réagir auprès de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage pour donner une chance et un poids supplémentaire à ce projet? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Ayré.
Madame, monsieur le député, effectivement, nous observons attentivement l'évolution de ce dossier de passerelle en dessous des gorges du Pichou, qui permettrait probablement un cheminement touristique supplémentaire entre les différents endroits de cette région. Mais comme vous l'avez évoqué, bien évidemment, c'est un projet qui se situe sur territoire bernois. Donc, premièrement, à ma connaissance, nous n'avons pas été sollicités pour donner un avis ou prendre une position quelconque. Mais nous restons attentifs à ce projet qui pourrait mettre en valeur effectivement un aspect de randonnée pédestre dans cette région qui pourrait aussi finalement être favorable au tourisme, notamment à proximité de la vallée de Delémont, voire même les Franches Montagnes. Et nous évoquerons probablement le point lors de séances bilatérales avec les différents collègues bernois que nous avons, mais sans forcément agir proactivement dans ce dossier.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Frédéric Lovy est partiellement satisfait. Pour la huitième question orale, je donne la parole à monsieur le député Jean-Pierre Michler.
Jean-Pierre Michler, député UDC de Develier, qui monte à la tribune pour la huitième question orale.
Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, chers collègues, la liaison ferroviaire internationale en direction de Belfort devrait rouvrir en décembre prochain. Cette ligne devrait permettre d'assurer le raccordement du canton de Jura au réseau européen de trains à grande vitesse. Dès Belfort devrait aussi permettre aux frontaliers d'emprunter le train au lieu de la voiture afin d'éviter les bouchons quotidiens au tunnel de la 16. Or, il semblerait que pour différentes raisons techniques ou politiques, les trains suisses ne seront pas ou ne pourront pas circuler jusqu'à Belfortville. Pourtant, la Confédération et le canton du Jura ont participé financièrement à la construction de cette ligne sur sol français. Le gouvernement peut-il nous expliquer ce qu'il en est exactement? Est-ce que cette situation est nouvelle et est-ce qu'elle est de nature à remettre en cause la desserte d'El Belfort? Je vous remercie de la réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Ayré.
Voilà, monsieur le député, donc dans ce dossier, effectivement, qui est dans les médias, enfin en tout cas ces derniers jours, je peux vous répondre simplement qu'il n'y a rien de nouveau, puisque fin 2016, une convention a été signée entre la Confédération, le Coteau du Jura et la région Bourgogne-Franche-Comté, qui définissait clairement les cheminements ferroviaires entre Bienne et Belfort, avec donc 10 allers-retours entre Bienne et Belfort TGV, qui sont continués par des trains français qui prendront leur relais jusqu'à Belfortville. Également 6 allers-retours entre Belfortville et Del, avec correspondance sur des trains suisses. Donc ceci n'est pas nouveau. Et par contre, ce que j'aimerais quand même corriger dans vos propos, vous parlez d'obstacles techniques ou politiques, mais la raison finalement de cette situation, c'est qu'il y avait un obstacle financier au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté qui, par rapport aux contraintes qu'ils ont actuellement, ne pouvait pas concevoir que des trains suisses aillent jusqu'à Belfortville à la cadence que nous souhaitions. Donc il y a eu plusieurs séances de négociations. La dernière s'est terminée à l'ambassade de Suisse à Paris, où nous avons donc, je dirais, sauvé le minimum, sauvé l'essentiel. Et nous sommes satisfaits, comme dirait un député, partiellement de cette situation, mais avec espoir que la situation peut encore évoluer. Et je vous rappellerai que nous avons mis 20 ans pour réouvrir cette ligne, nous aurons mis 20 ans à la fin de l'année. Et nous estimons que durant le 21e siècle, il sera certainement possible de faire évoluer à la fois les horaires et à la fois les cheminements ferroviaires jusqu'à Belfort TGV, jusqu'à Belfortville, ou pourquoi pas même des trains français qui pourraient venir jusqu'à Bienne. Je veux dire, tout est possible. Et j'espère que le bon sens et le souci de satisfaire les usagers et les besoins des pendulaires sera peut-être encore plus pris en question par la région Bourgogne-Franche-Comté.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Jean-Pierre Michler est satisfait. Pour la 9e question orale, je donne la parole à monsieur le député Nicolas Girard.
Nicolas Girard, député PS du Noirmont.
Madame la Présidente, chers collègues, madame, messieurs les ministres, juin est le temps des foins. Le temps, ainsi que le rapportent les nouvelles, des dangers pour les foins nés dans les champs. Chaque année, à la saison des foins, on assiste en Suisse à des massacres de foins nés dans les champs, fauchés par les machines agricoles. On estime à 3000 les victimes animales de l'opération de la coupe des foins sur notre territoire national. Cette situation, pour dramatique qu'elle soit pour les animaux sauvages, peut l'être aussi pour le bétail absorbant les bactéries naissantes de la contamination du fourrage après la mort de ces foins. Cette situation ne plaît effectivement à personne. Les cantons de Vaud et de Neuchâtel ont pris des mesures à ce sujet. Dans celle d'une détection des couches des jeunes foins au moyen de drones mis gratuitement à disposition des agriculteurs. L'opération vaudoise a été baptisée pour la petite histoire le sauvetage des faouins. Considérant qu'une telle action permet d'éviter ces morts à répétition dans nos champs, le gouvernement pourrait-il s'y rallier et lancer sa propre campagne pour le sauvetage des foins dans le Jura? Merci pour votre réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
Monsieur le député, effectivement, la question est d'actualité puisque la fauche des foins est actuellement très active. J'ai notamment vu les franches montagnes à peu près être fauchées en 24 heures ou en 48 heures par rapport à la météo qui est clémente. Mais par rapport à votre question, effectivement, il y a de nombreuses mesures qui sont déjà en place. Il y a notamment une recommandation aux agriculteurs de procéder à des fauches centrifuges pour permettre au gibier de pouvoir s'éloigner gentiment de la machine et de ne pas être piégé au centre du champ. Il y a également dans le contrat de prestation entre l'État et la FCJC, donc la Fédération cantonale des chasseurs, il y a donc une protection de la faune sauvage qui doit être mise en place par les chasseurs. Chasseurs qui travaillent donc des centaines d'heures, en tout cas ces jours-ci, pour pouvoir finalement essayer de faire sortir ce gibier des champs. Des centaines d'heures qui sont donc un travail conséquent, mais surtout gigantesque, puisque c'est concentré sur quelques jours par rapport aux moyens de fauche actuels qui sont très rapides. Donc je tiens peut-être à profiter de la tribune pour aussi remercier ces chasseurs qui font un travail énorme, remercier également les agriculteurs qui, en général, jouent le jeu et signalent quand ils observent du gibier dans leur champ, ce qui permet de pouvoir faire sortir ce gibier avant de faucher. Par contre, pour la suite, vous avez évoqué un projet dans le canton de Vaud qui a été mis en place. Et sachez qu'au niveau jurassien, des réflexions sont en cours pour encore améliorer la prévention, ou en tout cas les mesures de prévention de ces morts de gibier. Et y compris les drones sont évalués dans cette réflexion, qui pourrait être également un outil efficace pour détecter le gibier, notamment à la fin de la nuit, avec des caméras thermiques qui permettent de facilement détecter la présence de gibier par rapport à la chaleur qu'il dégage. Donc le travail dans le terrain reste quand même fondamental. Et encore une fois, je souligne que la collaboration entre le monde agricole et les chasseurs est la première nécessité pour pouvoir avoir une action efficace pour sauver ce gibier.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Je suis satisfait.
Monsieur le député Nicolas Girard est satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune monsieur le député Vincent Hénin.
Vincent Hénin, député PCSI de Montfaucon.
Carte postale La Poste, des dérives qui font rire jaune. Pas un jour, pas une semaine, sans que les médias ne relatent un fait nouveau dans l'affaire Carte postale et La Poste. Si le gouvernement est à féliciter pour son abnégation dans ce dossier, bien des questions restent ouvertes et mériteront des réponses. Dernièrement, nous avons pu prendre connaissance que les malversations seraient antérieures à 2007. La Poste avait à l'époque reçu un avertissement l'assommant de cesser un système de facturation interne permettant de justifier de manière ciblée la fermeture de bureaux de poste. Il est fort probable que le géant jaune n'a pas respecté l'avertissement reçu. Ceci menant aux événements actuels, politique globale d'entreprise favorisant des pratiques douteuses comme la surfacturation, fermeture de bureaux de poste, attaque en règle contre les organes dirigeants de l'entreprise, démission, etc. S'il est maintenant légitime de douter de la validité des éléments fournis et permettant d'appliquer le programme de fermeture de nos bureaux de poste, il eût été intéressant de savoir si notre exécutif eût été prêt à s'investir plus largement pour leur sauvegarde. Las, disposant d'une seule question, il apparaît tout aussi important de demander au gouvernement son avis sur les éventuelles manipulations comptables antérieures à 2007 et qui pourraient elles aussi déboucher sur des demandes de rétrocession de sommes indûment encaissées. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. L'incontournable ministre, monsieur David Herret.
Effectivement, monsieur le député, dans les rapports récemment publiés par La Poste, il est fait mention d'écritures comptables douteuses, voire même illégales, antérieures à 2007, alors que toutes les investigations en cours commencent à 2007. Et cela a été également relayé dans certains médias qui ont tout de suite mis en lumière cet enjeu. Et donc votre question est de savoir que va faire le gouvernement. Eh bien, le gouvernement, respectivement le département, a écrit à l'Office fédéral des transports pour demander à ce que le dossier soit ouvert dans les années antérieures à 2007, qu'une investigation soit initiée pour savoir quels préjudices ont subi les cantons et la Confédération dans les années antérieures à 2007. Et dans la demande, il a été également formulé le souhait de demander à La Poste une renonciation à la prescription, puisque si l'enquête dure quelques années, eh bien, les quelques années vont glisser et ça pourrait préserver La Poste de rembourser les montants qui ont indûment été encaissés. Donc la demande a été transmise, une copie a été envoyée à la Conférence suisse des transports publics, et ce sera certainement un thème qui sera évoqué lors d'une prochaine réunion intercantonale, pour savoir comment les cantons se comporteront face à ces révélations qui démontrent que le scandale n'a pas commencé en 2011, mais est antérieur à 2007.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Vincent Hénin est satisfait. Pour la question orale suivante, je donne la parole à madame la députée Pauline Queloz.
Pauline Queloz, députée indépendante de Saint-Bré, qui monte à la tribune pour la 11e question orale.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues. Depuis quelque temps, le chômage baisse dans toute la Suisse, y compris dans le Jura. Évidemment que le chômage diminue est réjouissant, en tout cas a priori. Je dis a priori car une donnée sombre vient contredire cette statistique heureuse. Selon un article du journal Le Temps du 20 juin 2018, le nombre de chômeurs qui arrivent en fin de droit est en constante augmentation. Selon les chiffres de 2017, chaque mois en Suisse, près de 3300 personnes sont privées de prestations de chômage. Voyant se refermer la porte des offices régionaux de placement, elles doivent s'inscrire à l'aide sociale. Sur l'année, cela fait près de 40 000 exclus du marché du travail, presque deux fois plus qu'il y a 10 ans. On m'a fait remarquer que les arrivants en fin de droit de chômage sortaient de la statistique du taux de chômage. Si cette affirmation est exacte, le gouvernement peut-il nous dire dans quelle proportion cela améliore la statistique du chômage dans notre canton ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre Jacques Gerber.
Jacques Gerber, ministre.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, merci Madame la députée pour votre question. Elle permet de clarifier la situation au niveau du canton du Jura. En répondant que non, Madame la députée, les chômeurs dans le canton du Jura qui arrivent en fin de droit ne sortent pas systématiquement de la statistique du chômage. La statistique du chômage est basée sur le nombre des demandeurs d'emploi inscrits à l'ORP. Et ces demandeurs d'emploi peuvent être de différents ordres. Par exemple, ils peuvent être en cours d'emploi mais avoir reçu un préavis de licenciement. Ils peuvent être bien sûr au bénéfice de l'assurance chômage s'ils ont perdu un emploi, mais ils peuvent être également au bénéfice de l'aide sociale ou d'une autre assurance sociale, exemple l'AI, voire de rien du tout, par exemple une mère de famille qui recherche un emploi ou toute personne qui désire rester à l'ORP sans avoir aucun droit particulier. Ce qui est important pour rester inscrit à l'ORP dans le canton du Jura, c'est l'aptitude au placement et bien sûr à l'employabilité. Autrement dit, le dispositif jurassien est très inclusif par rapport aux autres cantons de Suisse et la sortie de l'assurance chômage n'améliore en rien le calcul du taux de chômage. Dans d'autres cantons, ce sont évidemment d'autres dispositifs qui prennent ces personnes en charge. Donc dans le canton du Jura, le taux des personnes arrivant en fin de droit et restant suivies par l'ORP est plus élevé que dans les autres cantons. On estime, si on voulait corriger le taux de chômage, qui va exactement à l'inverse de ce que vous avez développé, on estime entre 0,6 et 0,8 points vers le bas, donc, pour finalement avoir un taux de chômage qui s'approcherait plus ou moins de la moyenne suisse. Le canton du Jura privilégie donc la prise en charge des personnes qui en ont besoin plutôt que le résultat purement statistique.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Pauline Queloz est satisfaite. Pour la deuxième question orale, je donne la parole à Madame la députée Katia Lehmann.
Katia Lehmann, députée PS de Villars-sur-Fontenay.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, en 2017, le Centre de puériculture jurassien a vu le passage de 559 nouveau-nés, soit 82% des naissances du canton. Les prestations s'adressent au suivi des enfants de 0 à 4 ans par le biais de permanences téléphoniques, de consultations dans les locaux du centre et de visites à domicile dans toutes les localités. Les conseils efficaces dispensés par des infirmières compétentes et expérimentées sont appréciés des jeunes parents qui trouvent dans ce cadre une écoute attentive et respectueuse en réponse à leurs inquiétudes ou interrogations. Les visites au centre de puériculture sont gratuites, facultatives et confidentielles et se déroulent avec ou sans rendez-vous. En plus du suivi médical de base, ces consultations sont aussi l'occasion d'échanges ou de rencontres avec d'autres parents. Elles ont une valeur sociale essentielle et sont un soutien précieux pour nombre de familles jurassiennes. Les revenus principaux de l'association proviennent des subventions du canton du Jura par le service de la santé publique. La situation des difficultés financières rencontrées par le centre de puériculture et relayée par la presse a donc de quoi nous alarmer. Ma question est la suivante. Le gouvernement peut-il nous préciser sa vision d'avenir concernant le centre de puériculture ? Plus particulièrement, le gouvernement peut-il nous confirmer qu'il fera le nécessaire pour assurer la pérennité de cette institution qui assure des prestations importantes pour les familles jurassiennes, et cela sans péjorer les conditions salariales de ses employés. Pardon. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de préciser que le centre de périculture est actif sur les trois districts, trois sites de Lémont-Port-Antruy et Seignelégier, que ses prestations s'adressent effectivement aux familles avec enfants de 0 à 4 ans et sont gratuites et bien sûr reposent l'aspect volontaire et confidentiel. Vous l'avez dit, le centre suit environ 80% des bébés et des naissances jurassiennes. Vous avez raison, Madame la députée, malgré la mise en place de certaines mesures, réduction du nombre de remplaçants, diminution des charges des locaux, sponsoring et dons,
le centre est actuellement en situation financière délicate. Les forces en relation avec cette situation s'épuisent. En 6 ans, nous avons vu 4 présidents se succéder au comité. La caissière nommée il y a 1 an a également déjà quitté sa fonction. Pour pallier aux différents problèmes financiers de structure, différentes pistes sont actuellement analysées par le centre, notamment le maintien de la dépendance avec la création d'un poste d'encadrement ou encore le rattachement à une structure existante, comme par exemple la Croix-Rouge jurassienne. Des résultats sont attendus à l'automne. Des discussions auront lieu à l'automne avec le service de la santé. Un dossier remontera ensuite au gouvernement. Actuellement, Madame la députée, aucune garantie de maintien des conditions salariales ne peut être donnée à ce stade. Les travaux de comparaison des statuts et des salaires sont en cours. Évidemment, l'équité et l'égalité de traitement avec des fonctions comparables devra être respectée, ainsi que les droits acquis pour les personnes en place. Je vous rassure, les syndicats sont associés à ces réflexions et encore une fois, le dossier complet avec les informations et les pistes pour le futur seront discutés à l'automne.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Katia Lehmann est partiellement satisfaite. Pour la question orale suivante, je donne la parole à Madame la députée Brigitte Favre.
Brigitte Favre, députée UDC de Seignelay-Gier.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, la décision est tombée. Il n'y aura pas d'attelage de poulains lors du cortège folklorique du marché concours cette année. Des particuliers ont appelé au scandale et c'est un fait que les professionnels qui travaillent avec des animaux ne sont plus à l'abri de telles émeutes. Des expositions de vaches, l'utilisation des chevaux, même le simple fait de gagner sa vie avec la production de lait ou de viande fait monter une partie de la population au créneau. Même l'institution fédérale, qui est censée défendre les professionnels de la branche, tombe dans le dos de ceux-ci en qualifiant dans un rapport les poulains sur les images d'une vidéo apeurés et stressés. La séparation d'un enfant ou d'un poulain de sa maman, comme toute nouvelle situation, est toujours un moment délicat et peut se traduire par l'émission de signes de stress. C'est l'habituation, l'apprentissage et un entraînement approprié qui peuvent réduire ce stress et garantir le bien-être. Choses qui sont pertinemment respectées par les éleveurs chevalins jurassiens, chevronnés, qui aiment et respectent leurs chevaux. Ces mêmes éleveurs se sont investis quand il s'agissait de défendre le maintien du haras national, et c'est celui-ci qui les attaque maintenant ouvertement dans la presse. Le gouvernement a-t-il donc prévu de défendre les éleveurs chevalins de son canton en prenant position dans la presse et auprès du haras national concernant cette affaire et d'agir à l'avenir en cohérence avec le non-soutien des éleveurs par celui-ci? Je vous remercie pour votre réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à Monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Madame la députée, vous amenez une thématique devant le Parlement lors des questions orales qui, effectivement, a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux et ému une certaine catégorie de la population suite à une vidéo qui a été tournée l'année passée. J'étais personnellement à 3 mètres de la personne qui prenait ces photos ou ce film. Je peux vous dire qu'en tant que fils de paysan, je n'ai absolument pas été choqué de quelque sorte que ce soit par l'attitude des éleveurs et encore moins par le soi-disant stress des poulains concernés. Je prends note que le marché concours a décidé cette année de supprimer cette partie de la manifestation. Je pense que des discussions peuvent et doivent avoir lieu pour les prochaines éditions. Le gouvernement est à disposition pour évidemment discuter de cette thématique, voir quelle est la meilleure solution pour poursuivre
avec cette activité dans le cadre du marché concours, tout en étant conscient, mesdames et messieurs, que, évidemment, ce genre de manifestation doit également évoluer en fonction de l'évolution de certaines manières de voir de la société, sachant que le côté urbain, entre guillemets, qui ne connaît pas grand-chose parfois à l'élevage, vient également lors de ces manifestations. Ceci étant dit, évidemment que le gouvernement soutient la filière et continuera de le faire, notamment en défendant la race des Franches-Montagnes auprès du Haras, vous avez raison, qui parfois a du mal de prendre en considération certaines réalités de terrain.
Merci, Monsieur le Ministre. Votre appréciation, Madame la députée. Madame la députée Brigitte Favre est satisfaite. Et enfin, pour la dernière question orale, j'invite à la tribune Monsieur le député Jean Leuenberger.
Jean Leuenberger, député suppléant de Montpellier.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Monsieur les Ministres, le 16 juin 1988, de fortes pluies se sont abattues sur l'ensemble des villages du Haut-Plateau, où la majeure partie des habitations se sont retrouvées inondées. Le village de Soyères, se situant en contrebas, a été fortement touché, inondé, envahi de boue, pierres et autres gravats. Suite à ces fortes intempéries, deux pièges à gravier ont été installés. 30 ans après, soit dans la nuit du 12 au 13 juin dernier, le même phénomène s'est reproduit, mais cette fois-ci avec une version moins catastrophique. En effet, les pièges à gravier ont bien prouvé leur utilité. Selon les météorologues, de tels orages intensivement locaux sont à prévoir de manière plus fréquente. D'après les autorités de la commune de Soyères, le premier piège à gravier situé dans le ruisseau de la Combe entre Montpellier et Soyères est prévu d'être supprimé. Ma question, pouvez-vous rassurer la population de Soyères que ce piège à gravier ne va pas être démoli? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
Oui, monsieur le député, je peux rassurer à la fois le Parlement, la population. Il n'est pas question de supprimer les pièges à gravier qui ont été mis en place suite aux inondations dont vous avez fait mention. Au contraire, d'après les informations que j'ai, il est même prévu de compléter ces deux pièges à gravier par d'autres installations de prévention contre les crues qui permettront encore d'améliorer encore plus la protection contre les crues pour le village de Soyères. Donc je ne sais pas d'où vous avez les informations comme quoi quelqu'un souhaiterait en démanteler un. Moi, j'ai des informations complètement contraires, même avec un renforcement. Donc peut-être que ce serait bien que vous me donniez les sources de vos informations pour qu'au moins les gens aient la même perception du projet et la même vision de ce que nous allons faire.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Jean Leuenberger est satisfait. Toutes les questions orales ont été posées. Nous pouvons donc passer à la suite de notre...
Voilà, c'en est fini pour ces questions orales ici au Parlement jurassien. Elles seront toutes à retrouver en podcast sur notre site internet rfj.ch dans le courant de la journée. Belle journée.
Merci Émilie, belle journée à vous et on vous rappelle que vous pouvez suivre la suite de la séance du Parlement sur rfj.ch.